Frères et sœurs, en cette année consacrée à la miséricorde, nous ne pouvons pas avoir meilleur sujet que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Il nous invite à la pitié, à la compassion et à terme à une certaine résurrection. La liturgie met en regard ce miracle opéré par Jésus et un autre opéré par Élie qui nous est rapporté dans la première lecture. Le prophète Élie a demandé l'hospitalité à une veuve qui s'est montée très généreuse à son égard. Elle a un fils qui est malade et qui semble même mort car il a cessé de respirer. La veuve est très affectée et se demande ce que peut bien signifier cette mort. Elle dit au prophète « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Elle pense que la présence d'Élie peut être responsable de cette situation. Et le prophète lui dit « Donne-moi ton fils. » Il prend alors l'enfant et l'amène à l'étage supérieur où il l'étend sur son lit et invoque le Seigneur avec insistance. « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Il s'étend à trois reprises sur lui et invoque à nouveau le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. » Rend la vie à cet enfant. Le Seigneur entend l'appel d'Élie et l'âme de l'enfant retourne dans son corps. Il reprend vie. Élie le confie à nouveau à sa mère. En comparant les épisodes rapportés dans la première lecture et dans l'Évangile, nous constatons tout d'abord des points communs. Dans les deux cas, la vie est rendu à un enfant mort. Mais il faut aussi tenir compte des différences. Jésus s'approche du cercueil, le touche et ordonne à l'enfant de se lever. Il ne manifeste aucune excitation, ni ne s'adresse à Dieu. Il est certain de pouvoir disposer de la puissance divine car il est toujours uni au Père Céleste. Élie manifeste moins de certitude, il pose des gestes afin d'aider à la résurrection de l'enfant. Il manifeste clairement le fait qu'il n'a pas le pouvoir de faire un miracle. Jésus démontre qu'il possède en plénitude la puissance divine en union avec le Père. L'histoire d'Élie s'inscrit dans cette histoire de la pitié de Dieu pour les hommes, avec Jésus, qui est le compatissant. L'émotion de Dieu atteint son comble, c'est une compassion forte et puissante. Il ne s'agit pas d'un sentiment étiolé. Nous entendons facilement aujourd'hui comme une accusation le fait d'être une bonne âme. La pitié est un sentiment fort, robuste, qui change l'histoire humaine, qui fait progresser l'histoire vers le bien, qui force le mal jusqu'à le vaincre. C'est ce qui arrive ce jour-là aux portes de la ville de Naïm. Jésus fit arrêter le cortège funèbre et s'adresse directement à ce jeune homme gisant dans son cercueil. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Ce jeune homme, à la voix de Jésus, se leva, s'assit sur sa civière et se mit à parler. La parole de Jésus recrée la vie, fait se relever du désespoir et d'une vie qui semblait morte. Parce que ces paroles ruissellent de miséricorde, de sincérité, de compagnie, d'amour viscéral, il est impossible d'y résister. Ce jeune homme l'écouta, et bien que mort, il se redressa. Nous nous souvenons, même le centurion de Capharnaüm dira à Jésus, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri, et cela se réalisera. » La parole de Jésus est forte, car elle est remplie d'amour et de miséricorde. L'évangéliste ne rapporte pas ce que dit le jeune homme à Jésus, à sa mère ou à la foule, et le tout, bien considéré, ne nous intéresse pas. Ce qui compte, ce sont les paroles de Jésus. Ce sont ces paroles que les chrétiens doivent continuer à répéter avec le même amour avec lequel Jésus les a prononcées. Cette scène évoque en nous les nombreux jeunes d'aujourd'hui qui ont peu ou plus accès à la parole du Christ, jeunes livrés à eux-mêmes ou encore esclaves de nombreux mythes de ce monde. Leur vie est parfois à la merci de ces mythes ou mirages qui les enserrent de plus en plus violemment dans leurs anneaux voraces en les étouffant jusqu'à la mort. Ce qui nous préoccupe encore plus, c'est parfois la solitude dans laquelle ils sont laissés. Qui leur dira la parole de l'Évangile ? Qui s'arrêtera pour les aimer comme Jésus les a aimés? Qui dépensera sa vie pour être à leur côté avec un amour compatissant? Malheureusement, la culture dominante, celle dont nous sommes tous enfants, nous pousse à penser chacun à nos affaires. Et souvent même à l'intérieur des familles, chacun risque de n'être attentif qu'à lui-même. Il y a toujours besoin de redécouvrir la compassion de Jésus qui nous incite à nous intéresser sincèrement à la vie de tous, et particulier des plus faibles, des plus fragiles, des jeunes, de nos jeunes, comme le disent parfois affectueusement certains adultes. Certains jeunes ont besoin de personnes qui s'émeuvent de pitié sur eux, tout de suite, et non pas quand il est trop tard. Il arrive encore aujourd'hui que nous soyons nombreux à nous rassembler autour de la dépouille de jeunes arrachés violemment à la vie. Nous percevons l'urgence et la nécessité de parler aux jeunes comme Jésus le faisait, avec l'autorité de l'amour, avec l'autorité de celui qui dépense sa vie pour eux. Nous sommes conscients que pour les parents, les éducateurs et les prêtres, l'accompagnement des enfants et des jeunes est une démarche délicate qui se doit d'être respectueuse de la personne et de sa vie. Vivre et faire vivre, c'est le désir de Dieu Père en Jésus-Christ. Puisse l'Esprit Saint nous accompagner de sa sagesse et de sa lumière pour que tous en ce monde retrouvent la joie de vivre. Amen.